Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de
Ô Marie conçue sans péché, Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce soir, je vous propose de contempler le mystère de la Vierge Marie. Le mystère de Marie, Vierge, épouse et mère. Et ce sera trois grandes parties dans ce que je veux vous dire. Marie, Vierge. Marie est le chef-d'œuvre de la création. Marie est le sommet de toute la création. Rien jamais n'a été créé. Rien jamais ne sera créé de plus beau que Marie. Marie, pur reflet de la gloire de Dieu. Pur reflet de la gloire, de l'amour trois fois saint, de l'amour de la Trinité. Marie sans tache, Marie immaculée. On verra tout à l'heure que ce mystère de l'Immaculée Conception est directement lié au mystère de la rédemption. C'est une grâce qui vient de la croix, j'en reparlerai tout à l'heure. Marie Immaculée est créée à l'image de Dieu, mais dans une pure splendeur. Quand Saint Maximilien Marie Kolbe est allé à Lourdes, il a été très saisi par cette phrase que Marie dit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et Saint-Maximilien Marie a gardé cette phrase dans son cœur pendant longtemps et il a compris que Marie ne disait pas « Je suis conçue immaculée ». Marie dit « Je suis la conception immaculée ». L'immaculée conception. Ce qui est tout à fait différent, ce qui est beaucoup plus. Quand je dis « Cette feuille est blanche », je ne dis pas « Cette feuille est la blancheur ». De Jésus, je dis que non seulement il est vivant, mais de Jésus, je dis qu'il est la vie. Moi, je ne suis pas la vie. Je suis vivant, mais je ne suis pas la vie. Moi, je suis un homme, mais je ne suis pas l'homme. Moi, j'ai été conçu par mes parents, non pas immaculé. Marie a été conçue, elle aussi, par ses parents, Anne et Joachim. Elle a été conçue sans péché, ça c'est par la grâce de Dieu. Mais non seulement elle est conçue sans péché, mais elle est la conception immaculée, c'est-à-dire elle est la pensée de Dieu, la conception, c'est-à-dire elle est la pensée de Dieu parfaitement réalisée. Au point que Saint Maximilien Marie finira par dire que Marie est la quasi, il a gardé le quasi, la quasi-incarnation de l'Esprit-Saint. Ça va très très loin, ça. Quand je regarde Marie, je vois l'Esprit-Saint. Le Verbe est incarné, le Verbe s'est fait chair. Quand je regarde Jésus, c'est vraiment le Verbe que je vois. Et comme Jésus le dit à Philippe, qui me voit, voit le Père. Bon, le Père, je comprends ce que c'est. J'ai l'expérience de la paternité, et moi, par grâce de Dieu, j'ai eu l'expérience d'une paternité heureuse de mon père, et puis moi-même étant père de nombreux fils et filles spirituels, la paternité, j'ai une idée de ce qu'est la paternité. Jésus, fils, Verbe fait chair, je commence à connaître Jésus en lisant l'Évangile. En parcourant l'Évangile et en devenant familier de l'Évangile, je commence à voir le visage de Dieu à travers Jésus. Et Jésus étant un homme, c'est relativement facile de considérer que l'homme... Pour l'Esprit Saint, c'est autre chose. L'Esprit Saint me dit c'est un feu. Difficile de voir un feu personnel. On me dit l'Esprit Saint c'est le vent, le souffle de Dieu. C'est difficile de donner un visage à ce souffle. On me dit l'Esprit Saint c'est l'amour échangé entre le Père et le Fils. C'est difficile de mettre un visage sur... Quand vous priez, je ne sais pas comment vous faites, mais... Est-ce que vous priez le Père? Est-ce que vous priez le Fils? Est-ce que vous priez l'Esprit Saint? Il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui prient, mais sans très bien savoir à quelle personne divine ils s'adressent. Ce n'est pas la même chose de prier le Père, de prier le Fils ou de prier l'Esprit Saint. Parfois, je prie la Sainte Trinité tout entière, qui fait un. Parfois, je prie le Père, Père de miséricorde. Parfois, je prie le Christ, parce que c'est lui qui me conduit au Père. Parfois, je prie l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui éclaire mon intelligence, mon cœur, mon âme. C'est lui qui me réchauffe, c'est lui qui me console, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui m'entraîne pour la mission. Mais c'est tellement difficile de trouver un visage à l'Esprit-Saint. Mais quand on découvre que Marie donne un visage à l'Esprit-Saint, on a découvert un trésor. Marie est pur reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la splendeur de son amour. La splendeur de son amour, c'est l'Esprit-Saint. Rien en elle ne fait obstacle à Dieu. Rien en elle ne fait obstacle à la lumière de Dieu. Moi, mon cœur est opaque, malheureusement. J'espère que mon cœur n'est pas trop obscur, mais il est quand même opaque. Mon cœur n'est pas transparent. Je suis obligé de reconnaître, et quand je me confesse, j'en ai l'expérience, je suis obligé de reconnaître que mon cœur n'est pas transparent. Et donc, si je suis image de Dieu, cette image a été quand même bien abîmée par le péché. Cette image est détériorée, cette image n'est pas transparente, cette image n'est pas pure. Marie, elle est parfaitement transparente. Elle est parfaitement, et c'est pour ça qu'elle est parfaitement virginale. Elle est virginale, ça veut dire elle est absolument pure. Ou, si je veux reprendre les choses positivement, tout en elle, absolument tout en elle, me dit Dieu, me dit la splendeur de l'amour de Dieu. Aussi bien son esprit, son âme spirituelle, que son affectivité, que sa psychologie, mais aussi ses yeux, sa bouche, ses mains, ses ongles, ses sourcils, ses doigts de pied, tout en elle me dit Dieu. Tout en elle est perfection de la création, chef-d'œuvre de la création, chef-d'œuvre de Dieu. La pensée de Dieu parfaitement réalisée, la pensée de Dieu parfaitement personnalisée en Marie. Elle n'est pas l'Esprit-Saint, elle est le pur reflet de l'Esprit-Saint, mais on peut dire avec saint Maximin Marie et d'autres spirituels, prier Marie ou prier l'Esprit-Saint c'est kiff-kiff, parce que quand je prie Marie, c'est l'Esprit-Saint qui est en elle que je prie. Quand je regarde Marie, je vois l'Esprit-Saint. Elle est le sourire de l'Esprit-Saint, elle est la douceur de l'Esprit-Saint, elle est la tendresse de l'Esprit-Saint, elle est la puissance et la force de l'Esprit-Saint, elle est l'esprit de discernement tranchant de l'Esprit-Saint. Mais quand je mets un pur cristal dans la lumière, quand je mets un pur diamant dans la lumière, plus le diamant est pur, plus je vois la lumière et moins je vois le diamant. Quand je mets un verre qui n'est pas en cristal, je vois le verre, je vois un peu la lumière, de plus en plus la lumière à mesure que le verre est vraiment transparent. Mais à mesure que ce verre cristal, le diamant est plus pur, plus je vais, plus je vois la lumière jusqu'à ce que disparaisse le cristal ou le diamant. Marie est plus pure que le diamant le plus pur. Elle disparaît absolument devant la splendeur de Dieu. Je ne vois plus que la splendeur de Dieu. Alors, c'est quelquefois difficile quand on a des statues un petit peu en plâtre délavées ou un peu sulpiciennes. C'est pas toujours très, très élégant, c'est pas toujours très pur. C'est pour ça que les statues peuvent m'aider, les icônes peuvent m'aider, peut-être un peu plus, encore que ça n'est pas forcément notre culture en Occident. Mais ce qui m'aide surtout, c'est de fermer les yeux et puis de regarder la femme. Il faut s'habituer peu à peu. Il faut demander à l'Esprit-Saint de pouvoir voir le visage de Marie. Marie virginale, Marie vierge sainte, Marie vierge pure. Et c'est important parce que l'Immaculée Conception sera le noyau central, la condition même, le centre de l'Annonciation, c'est-à-dire de la conception virginale de Jésus en Marie. Parce que Marie est totalement consacrée à Dieu, parce que Marie est totalement et absolument vide d'elle-même. Et qui d'entre nous peut dire qu'il est vide de lui-même? On voit très bien ce que c'est que quelqu'un qui est plein de lui-même. Quelqu'un qui la ramène tout le temps, quelqu'un qui est tellement présent qu'on ne voit plus que lui. C'est difficile, ça me brûle en disant ça, parce que je vois bien la distance qu'il y a à parcourir pour devenir plus pur et virginal. Mais il faut bien le dire quand même, nous sommes pleins de nous-mêmes. Plus ou moins, c'est Dieu qui juge, et il ne faut pas se juger soi-même. Mais encore une fois, c'est notre expérience. Quand nous allons nous confesser, nous savons bien qu'il y a beaucoup, beaucoup en nous qui fait obstacle à la lumière de Dieu. Marie est totalement, absolument vide d'elle-même, absolument et totalement consacrée à Dieu. Elle est la fontaine scellée, elle est le jardin bien clos, pour reprendre des images du Cantique des Cantiques. Absolument consacrée à Dieu, elle garde la parole de Dieu, elle garde la présence de Dieu en elle. Elle est tout entière centrée sur Dieu qui est au centre d'elle-même. Elle n'est pas centrée sur elle-même, elle est centrée sur Dieu. Elle n'est pas concentrée. Quelquefois on entend dire ça dans la prière, il faut se concentrer. Non, il ne faut pas se concentrer, il faut se recentrer. Très belle expression, qui, je ne sais pas si c'est de l'archevêque de Lyon ou s'il l'a trouvée autre part chez un saint spirituel, mais en tout cas l'expression est très belle. Marie n'est pas le centre, mais elle est au centre. Elle n'est pas l'eau qui coule de la source, mais elle est le canal qui nous portera cette eau. Elle est la source matérielle qui fait jaillir. Elle n'est pas l'eau qui coule, mais elle n'est pas la grâce, mais elle porte la grâce. On le verra tout à l'heure. Marie est tellement centrée sur Dieu qui est en elle, au cœur du cœur de son être. Marie est tellement contemplative. Marie n'est que contemplation. Nous souffrons dans notre prière d'être distraits, d'avoir sans cesse des soucis, des difficultés. Et ce qui est difficile, ce qui est très pénible, c'est que nos soucis, nos difficultés, nos distractions, nous essayons de les chasser ou de les dominer par nous-mêmes. Marie, elle est tellement centrée, tellement contemplative, qu'il n'y a plus de distraction en elle, plus rien, même les soucis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, comment est-ce qu'on va faire ça, même les soucis la conduisent à Dieu et la ramènent à Dieu, parce que tous les soucis, même les soucis, sont portés en lui, par lui, avec lui. Marie est totalement consacrée à Dieu, Dieu est présent en elle, est présent par sa parole c'est sa parole d'amour. C'est bien simple, elle est pleine de grâce. Elle est sanctifiée dans tout son être. Absolument libre, d'autant plus libre qu'elle n'a pas péché. C'est le péché qui m'enlève la liberté. C'est le péché qui fait que je ne suis pas libre. Je sais bien que quand je suis dans la grâce, quand je suis en état de grâce, je suis beaucoup plus libre, parce que je suis dans la lumière de Dieu. Je peux reprendre ma vie dans cette lumière et je peux répondre à sa volonté, absolument librement. Marie adhère de tout son être à la volonté de Dieu. Marie adhère à tout son être, à l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu est toute sa vie. Et parce que Dieu est en elle au centre et qu'elle est entièrement centrée sur cette présence qui est en elle, Cette présence prend chair en elle. C'est une conception, avant même d'être une conception matérielle, avant même d'être une conception charnelle, c'est une conception spirituelle, une conception de personne. Marie conçoit, elle qui est la conception de Dieu parfaitement réalisée, elle conçoit Dieu en elle. Et l'ovule en elle qui est vivant, qui sera fécondé par la grâce de l'Esprit-Saint, elle sera fécondée par cette contemplation de Dieu. C'est sa contemplation qui fait qu'elle est fécondée par l'Esprit-Saint. C'est cette pure consécration à Dieu, cette pure offrande d'elle-même à Dieu, qui fait que cette vie qui est en elle peut être fécondée par la grâce de Dieu. Conception virginale de Jésus en celle qui est la Vierge pure. Cette virginité de Marie se traduit par son silence. Marie, c'est la grande silencieuse. Sept paroles de Marie dans l'Évangile. Comme il y aura d'ailleurs sept paroles de Jésus en croix. Marie ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pratiquement pas. Marie est totalement silencieuse. On le verra. C'est le premier moment où on le verra vraiment avec Joseph. Le silence impressionnant entre Marie et Joseph. N'oublions pas que le 8 décembre se clôturera aussi l'année de Saint-Joseph. Il faut associer Joseph à Marie. Le silence impressionnant, le silence tellement admirable entre Marie et Joseph. Joseph prend conscience que son épouse est enceinte. Marie n'a rien dit à Joseph, bien sûr, elle ne peut rien dire. Elle porte un secret qui ne lui appartient pas. Elle est prisonnière de ce secret qu'elle porte. Et si Dieu a trouvé le moyen de féconder en elle la vie, Dieu trouvera bien le moyen de dire à Joseph ce qu'il doit lui dire. Dieu trouvera bien le moyen de conduire Joseph selon sa volonté. Ce n'est pas à Marie de le faire, elle le comprend, elle l'accepte. Marie sait l'agonie que va vivre Joseph. Marie sait l'épreuve que va vivre, et Marie elle-même vit cette épreuve de faire souffrir celui qu'elle aime. Jamais une femme n'a aimé un homme comme Marie a aimé Joseph. Jamais un homme n'a aimé une femme comme Joseph a aimé Marie. Joseph a porté le regard sur Marie. Joseph a aimé cette femme, cette jeune fille, toute jeune. Joseph l'a aimée d'un amour absolument chaste et pur. Joseph l'a choisie d'un choix libre. Même si ce mariage, selon les coutumes de l'époque, est un peu arrangé par les parents, peu importe, Joseph choisit Marie. Il l'a choisie parce qu'il sait qui est Marie. Il ne sait rien du mystère qu'elle va porter. Mais il sait, il devine dans sa pureté, dans sa beauté, dans sa sainteté. Joseph sait bien la grâce pure que porte Marie. Joseph s'en est ébloui. Mais Joseph n'en est pas gêné parce que Joseph est tellement humble que lui-même ne se regarde pas non plus. C'est très dur pour un homme qui n'est pas tellement chaste de regarder une fille qui est très pure. Parce que l'homme se sent tellement malheureux, tellement pauvre, l'homme se sent tellement indigne. Joseph a très grande conscience de son indignité, mais il remet cette indignité entre les mains de Dieu. Joseph s'offre à Marie pour être tout à elle. Et voilà qu'il découvre qu'elle est enceinte. Parce que Joseph est parfaitement pur et chaste, il ne pose aucune question à Marie. N'importe quel mari aurait posé la question à sa femme. Avant de connaître Joseph, peut-être qu'un mari très saint ne posera pas la question. Joseph ne pose aucune question à Marie. Mais enfin, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, mais enfin quand même, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph ne pose pas de questions, Joseph constate. Il est crucifié intérieurement. Il s'en remet à Dieu. Il renonce à résoudre cette énigme. Joseph est absolument sûr de la sainteté et de la pureté de Marie. Joseph ne doute pas un instant de la pureté de Marie. Si vraiment il faut le redire encore une fois, Marie a tout sauf la tête de quelqu'un qui a fait une bêtise. Marie n'a jamais été plus lumineuse que depuis qu'elle porte l'enfant Dieu. Marie n'a jamais été aussi transparente que depuis qu'elle porte l'enfant Dieu. Et Joseph voit bien que Marie est absolument pure et transparente. Joseph arrive à cette énigme insoluble. Marie est enceinte, cet enfant n'est pas de moi, cet enfant n'est pas d'un autre. C'est le mystère de Dieu, je me retire. Et Joseph prend la décision de la répudier en secret. Il cachera Marie chez lui. S'il la répudie publiquement, elle sera lapidée pour adultère. La preuve même, d'ailleurs, que Joseph croit que Marie est pure et non pas adultère, c'est qu'il la garde chez lui. Je la garderai chez moi, mais Seigneur, tu sais, toi, que je ne la regarde plus comme mon épouse, elle est à toi. Je me retire, comme Moïse retirait ses sandales devant le buisson ardent. Retire tes sandales, Moïse, ce lieu est saint. Joseph se retire, il prend la décision de la répudier en secret devant Dieu. Décision héroïque de la foi de Joseph. Dans l'héroïsme du silence de Marie, le silence de Joseph qui répond à celui de Marie, le silence de Marie qui répond à celui de Joseph. Après Marie, personne n'a été plus vierge et plus chaste que Joseph. Joseph s'endort dans le martyre de son intelligence et de son cœur. Et c'est dans ce sommeil qu'il reçoit le songe de l'ange. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Oui, elle est ton épouse, tu as choisi, tu as bien choisi et je confirme ce choix. Ne crains pas de la prendre chez toi. Joseph exulte. Car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Tu l'avais deviné. Non, tu n'avais pas les mots pour le dire, bien entendu. Mais tu avais compris que c'était le mystère de Dieu qui était en elle. Et je le confirme, ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Et tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est toi qui en es le Père désormais. Je te confie cette mission. Joseph sera beaucoup plus que le père nourricier de cet enfant. Jésus sera l'époux de Marie, père de Jésus. Et quand Marie parlera pour Joseph au recouvrement de Jésus au temple, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous t'avons cherché dans l'angoisse. Ton père et moi. » Marie regarde Joseph vraiment comme son époux et comme le père de Jésus. Joseph n'est pas là simplement pour apporter de la bouffe à la maison. Joseph n'est pas là seulement pour nourrir la famille. Joseph est là pour être réellement, en vérité, le père de Jésus. Jésus découvrira la paternité à travers la paternité de Joseph. Souligner la chasteté et la pureté de Joseph souligne la pureté et la virginité de Marie. Marie, vierge et mère. Mère parce qu'elle est vierge, on le verra tout à l'heure. La virginité de la foi de Marie. Marie est parfaitement pure dans tout son être, dans son corps, mais dans son être tout entier, dans son âme. Elle est pure dans sa foi. Elle vit une foi pure, mais une foi qui va croître. Parce que la foi de Marie va grandir en même temps qu'elle-même va faire de progrès en progrès dans cette foi pour découvrir la pureté absolue de la foi au calvaire. Marie va pérégriner dans sa foi, ce que Jean-Paul II appelle le pèlerinage de la foi de Marie. À l'Annonciation, l'ange Gabriel lui annonce que celui qu'elle porte désormais sera appelé grand, il sera appelé fils du Très-Haut. On lui donnera le trône de David, son père. Il conduira toutes les nations avec un sceptre de fer. Et voilà qu'au calvaire, Marie, debout au pied de la croix, je cite Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, Marie connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. En fait de trône, Jésus, son fils, est cloué nu sur le bois de la croix. Marie connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. Elle voit l'échec total, elle croit la victoire totale. La foi croit l'envers de ce qu'elle voit. Comme elle est grande alors, c'est Jean-Paul II qui continue, comme elle est grande alors, comme elle est héroïque la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ce sont les paroles d'Élisabeth à Marie au moment de la visitation. Comme elle est grande alors, comme elle est héroïque la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Marie est la Vierge bienheureuse parce qu'elle croit, elle a cru. Sa foi est absolument pure, et donc sa foi est absolument obscure. J'étais bouleversé quand j'ai découvert ça. Et j'ai découvert ça en lisant cette encyclique de Jean-Paul II il y a bien longtemps, c'était en 87. Je m'étais souvent dit dans ma jeunesse que Marie avait quand même de la chance d'être immaculée. Et intérieurement, je ne pouvais pas m'empêcher d'un petit peu de jalousie. Ben oui, mais pour Marie, c'est quand même facile, elle est immaculée, moi je suis tellement pécheur. Je bute contre mon péché sans cesse pour Marie. Et j'ai découvert en lisant Jean-Paul II que Marie avait connu une nuit de la foi plus profonde qu'aucun saint jamais dans l'histoire. Jamais un saint ou une sainte n'a connu une nuit de la foi plus absolue que la Vierge Marie. Puis vous lisez Mère Teresa, vous lisez Saint François d'Assise, vous lisez la petite Thérèse, vous lisez ma sainte tante, Sainte Émilie de Roda, 32 ans de nuit de la foi. C'est très impressionnant. Marie vit purement de la foi, dans sa foi, qui grandit de mystère en mystère à mesure que Jésus la conduit jusqu'au calvaire. Marie croit. Marie adhère, elle a une foi qui consent au mystère de la volonté de Dieu. Absolument librement, sa foi est l'expression la plus pure de sa liberté. Mais Marie n'agit pas, Marie ne se conduit pas en fonction de ce qu'elle voit, elle se conduit en fonction de ce qu'elle croit. Et Marie voit en permanence dans l'œuvre de Dieu ou dans les événements qu'elle traverse, elle voit la volonté de Dieu, elle discerne la volonté de Dieu à travers les événements. Parce qu'elle les médite soigneusement dans son cœur pour les garder dans sa foi. La virginité de Marie fait qu'elle a une pure vision de la volonté de Dieu. Ce qui m'empêche, moi, de voir la volonté de Dieu, ce qui m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, c'est mon péché, c'est mon égoïsme, c'est mon orgueil, c'est mon aveuglement, c'est ma jalousie, c'est toutes sortes de choses qui se battent en moi. Marie, absolument pure, ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu dans un pur regard de foi. J'aime citer cette réalité que j'ai découverte il y a quelque temps, mais quand par exemple César fait son édit pour recenser toute la terre et impose que les familles doivent retourner dans leur ville d'origine pour se faire recenser. Et j'imagine, c'est moi qui le dis, mais j'imagine facilement l'embarras de Joseph qui, à quelques jours, quelques semaines peut-être, mais quelques jours de l'accouchement, se rend compte qu'il va falloir faire ce voyage pour aller jusqu'à Bethléem avec Marie enceinte, dans des conditions complètement impensables, impossibles. Marie exulte. Parce que Marie comprend, elle savait depuis le commencement que le Messie devait naître à Bethléem. Elle avait lu la prophétie de Michée, elle connaît l'Ancienne Alliance par cœur, elle connaît l'Écriture par cœur. Elle sait que le Messie doit naître à Bethléem. Et elle habite à Nazareth et elle s'était souvent demandé comment le Seigneur accomplirait sa prophétie. Comment le Seigneur fera pour que je puisse accoucher à Bethléem alors que j'habite Nazareth? Et quand Joseph, tout embarrassé, revient du boulot en lui disant « Marie, tu ne sais pas ce qui arrive ?» Quelle barbe, quel pépin. Mais non. Dieu soit béni, j'ai compris. Dieu est dans le pépin, j'aime beaucoup ça. Dieu est même dans les pépins. Nous essayons d'écarter les choses qui nous gênent. Parce que nous imaginons que Dieu n'est que là où il n'y a plus de pépins. Marie voit Dieu dans les pépins. Impressionnant. la pureté et la virginité de Marie. Marie, Vierge, Marie, épouse. Marie, épouse, parce qu'elle est l'épouse du nouvel Adam, elle sera la nouvelle Ève. En réalité, nous avons trop l'habitude de regarder l'histoire de l'humanité d'une façon chronologique, et donc nous partons d'Adam et Ève et nous arrivons jusqu'à nous en passant par Jésus et Marie. Il faudrait convertir notre regard, le centre, l'axe fondamental, c'est Jésus et Marie, le couple modèle, le couple d'origine, si même on pourrait dire. Le couple originel, c'est Marie et Joseph, Marie et Jésus. Jésus, nouvel Adam, par qui tout est recréé, c'est lui qui sauve, c'est lui qui recrée dans son amour et dans sa mort et sa résurrection. Mais Marie est l'épouse qui permet à l'homme, le nouvel Adam, l'homme avec un grand H, Marie est la femme qui permet à l'homme d'être homme. En réalité, le péché s'est introduit dans le monde depuis l'origine, depuis la création du premier homme. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un commencement. On est obligé de dire de quelle manière, où, sur la terre, tout ça, on n'en sait rien. Mais il y a eu un premier homme, c'est certain. Et le péché s'est introduit. Il y a un fait historique dans le péché originel. Même si le péché originel me touche moi personnellement, et nous touche tous les uns et les autres, il y a eu quand même un fait historique. J'ai écouté la tentation de Satan. Et Satan nous a induits en erreur. Et Satan nous a conduits à la mort. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Je n'ai pas le temps de faire un exposé sur le péché originel, mais ce serait intéressant de le faire. Il faudrait le faire un jour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à reprendre de ce point de vue. La mort, c'est dans le livre de la Sagesse, chapitre 2, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et c'est parce que l'homme, historiquement le premier, et puis ce péché, parce que toute l'humanité est solidaire, ce péché s'est transmis à toute l'humanité. Ce péché a enveloppé toute l'humanité, et la mort est tombée sur l'humanité, comme conséquence du péché. Bon, on peut en parler très très longtemps, mais au fond, c'est assez simple. Si je ne suis plus lié à celui qui est la vie et la source de la vie, ben, je suis mort. Le péché m'a coupé de la source de la vie, la conséquence du péché, c'est la mort. Celui qui n'est plus vivant est mort. Et la mort est une peine subie à cause du péché. La peine, conséquence du péché. Jésus va entrer librement dans la mort, Jésus va descendre les ravins et les abîmes de la souffrance jusque dans les entrailles de la mort pour ouvrir une brèche dans la mort. La mort ne peut tuer que ce qui est mortel. La mort ne peut tuer que ce qui est déjà mort. La mort ne peut rien contre l'amour. La mort ne peut rien contre celui qui est la vie. La vie, c'est l'amour, c'est la même chose. La vie, Jésus est la vie. Et Jésus va même dire, « Je suis la résurrection et la vie », il le dit à Marthe. Crois-tu cela ? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça que je t'ai dit. Marie n'a pas compris. Marie fait une admirable profession de foi, tu es le Fils de Dieu. Mais Marie n'a pas compris ce que Jésus lui disait. « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» Jésus ne dit pas, « Je vais ressusciter », Jésus dit, « Je suis la résurrection ». Et donc la mort ne peut rien contre lui. Parce qu'il est homme, il peut mourir, mais parce qu'il est Dieu, il ne peut pas rester dans la mort. Et donc il ouvre une brèche dans la vie, dans la mort, pour donner de nouveau accès au Père, accès au cœur de Dieu. Et selon cette formule extraordinaire de saint Paul, désormais nous avons accès auprès du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Par lui, avec lui, en lui, nous avons accès au Père à travers la mort devient chemin de vie. Par l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui fait la navette entre le Père et le Fils, si j'ose dire, une image un peu crue, Mais c'est l'Esprit Saint, c'est le canal d'amour, c'est l'échange d'amour, c'est ce flot d'amour, c'est ce jaillissement d'amour qui nous porte à travers la mort. Si je suis dans le jaillissement d'amour qui est l'Esprit Saint, je ne crains rien des ravins de la mort. Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Et donc, il est essentiel que Jésus donne sa vie jusqu'au bout pour que le chemin soit ouvert vers la vie. Mais pour que cette vie soit offerte jusqu'au bout, il faut que la femme soit là. Vierge, épouse. Il faut que l'épouse accueille le don de l'époux pour le féconder et pour le donner à la vie. Marie doit être présente au calvaire pour permettre à Jésus d'aller jusqu'au bout de son offrande. C'est ensemble, Jésus et Marie, qui vont engendrer la nouvelle humanité. La nouvelle humanité naît du cœur ouvert de Jésus, transpercé par la lance. Jésus offre son sang. De son cœur coulent l'eau et le sang, dans lesquels l'Église a toujours reconnu la source de toute grâce, la grâce elle-même. Mais Marie, absolument pure, absolument vierge, Marie sainte, comme à l'Annonciation, elle est fécondée par la grâce de Dieu en elle, au calvaire, elle est fécondée par l'eau et le sang qui coulent du cœur de Jésus. Elle reçoit ce don de grâce, ce don d'amour qui féconde en elle sa maternité. Qu'est-ce que c'est qu'une femme ? La femme, elle est celle qui suscite le don de l'époux. L'homme, il est fait pour se donner, il est tout entier pour le don. Il est tout entier conçu pour le don. L'homme, c'est une force de don. La femme, elle est tout entière conçue pour susciter le don, pour attirer le don, pour aider l'homme à donner, pour féconder ce don et le redonner en vie. Et c'est inscrit dans le corps de l'homme et dans le corps de la femme. Jusque dans les organes sexuels, qui sont précisément cette extraordinaire réalisation dans la chair de cette réalité spirituelle qui est le don de la vie. Et donc, c'est à la croix que Marie découvre, elle n'a pas encore les mots pour le dire, parce que c'est la théologie qui donnera des mots sur cette réalité, mais Marie le sait dans l'Esprit Saint, dans la grâce de l'Esprit Saint. Elle reçoit ce don de la vie de son Fils, devenu époux à la croix, et elle reçoit là la source de sa propre immaculée conception. C'est à la croix et au calvaire qu'elle reçoit, qu'elle devient mère, c'est-à-dire elle reçoit là l'origine de ce qu'elle va concevoir au moment de l'Annonciation. Elle devient immaculée en réalité au calvaire, c'est-à-dire sa conception immaculée, son immaculée conception est une grâce reçue de la rédemption du calvaire. Saint Bernard refusait le mystère de l'Immaculée Conception parce qu'il voulait que Marie soit sauvée. Marie ne peut pas ne pas être sauvée par la croix. Toute créature humaine, tout homme est sauvé par la croix de Jésus. Et donc Saint Bernard disait, mais non, c'est pas possible. D'ailleurs, Saint Thomas d'Aquin aura le même raisonnement. C'est pas possible puisque la rédemption est après. Et l'Église, peu à peu, a compris cette réalité extraordinaire, c'est Saint Bonaventure essentiellement qui l'a compris, que la grâce de la rédemption, la grâce du don de la vie, la grâce du salut offert par l'amour de Jésus, qui donne sa vie, précisément, le mot n'est pas très joli, mais a effet rétroactif, c'est-à-dire Marie immaculée, conçue immaculée, Marie conception immaculée, est un fruit, le premier fruit, le fruit le plus excellent, le fruit le plus pur, le fruit le plus parfait. Elle est le fruit de cette rédemption. Elle est le fruit de l'offrande de Jésus. Et Marie le vit au calvaire. Elle le vit pour elle-même, Elle reçoit au calvaire le don de l'amour de son fils, et cette fécondité se traduit immédiatement, avant même la mort de Jésus, par le fait qu'elle est devenue la mère de Jean, et à travers Jean, du disciple bien-aimé, c'est-à-dire de toi, de moi et de chacun d'entre nous. Marie devient mère parce qu'elle est l'épouse absolument pure. Marie reçoit le don de l'eau vive. Elle se laisse féconder, elle est immaculée. Marie porte la prière de son fils et elle conduit jusqu'à l'achèvement cette prière. C'est toujours un sujet extrêmement difficile, mais tellement important. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus prie sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous le savez tous, c'est le premier verset du psaume 21. Quand je vous dis notre Père qui es aux cieux, vous continuez la prière et vous dites le Notre Père. Quand je vous dis je vous salue Marie, pleine de grâce, et vous continuez la prière. Quand on dit à un vrai juif et a fortiori à un grand prêtre qui est vraiment pieux, quand vous lui dites mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il continue le psaume. Jésus pousse ce cri, c'est réellement un cri. Jésus ne se contente pas de réciter des psaumes, il les vit. Et il vit cette prière qui le fait rejoindre l'abîme de la douleur de l'humanité la plus noire, la plus pécheresse, la plus enfouie dans l'abîme du péché. Jésus vit ce désespoir de l'homme coupé de Dieu à cause du péché. Lui-même identifié au péché, il a été fait péché pour nous, dira saint Paul. Et donc il vit les conséquences du péché qui le coupe de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il vit cet abandon, il vit cette séparation de son Père humainement. Il le fait absolument délibérément puisqu'il est l'innocent parfait. Lui qui ne mérite absolument aucune condamnation, il est le seul qui peut offrir parfaitement sa vie. Il est l'offrande agréable à Dieu parce que c'est la seule capable. C'est la seule capable de rendre gloire à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Les grands prêtres qui sont là se moquent. Si Dieu est vraiment son Père, comme il le dit, eh bien, qu'il vienne l'aider, nous croirons. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, qu'il descende la croix. C'était supprimer la liberté de l'homme, c'était imposer la foi, c'était qu'il n'était plus la foi, c'était imposer sa présence. Tout le monde se serait aplati en disant « c'est Dieu qui est Dieu », mais l'homme n'était plus libre de sa foi, justement. C'est Marie qui ira jusqu'au bout de sa liberté dans la foi, même Jésus mort. Si les grands prêtres et les scribes qui étaient là n'ont pas suivi cette prière, n'ont pas poursuivi cette prière, et même ont fait un contresens total. Ce qui est très très grave de leur part, parce que ça prouve qu'ils étaient tellement enfermés dans leur jalousie et dans leur haine, qu'ils n'ont pas saisi cette occasion, qui était la dernière occasion que Jésus leur donnait de se convertir. Parce que ce psaume 21, vous le connaissez par cœur, il y a des passages tellement extraordinaires, c'est la description très exacte de ce que Jésus est en train de vivre. Il me perce les mains et les pieds, il partage entre eux mes habits, ma langue colle à mon palais, c'est la description exacte d'un crucifié. Tout est décrit d'une façon extraordinairement détaillée de ce qui est en train de se réaliser là. Il tire au sort mon vêtement, etc. Et donc, les grands prêtres et les scribes auraient dû s'apercevoir que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était précisément ce que l'Écriture avait annoncé. Ils étaient en train d'accomplir l'Écriture. Aveuglés par leur haine, ils n'ont rien vu. Ils ont continué à injurier et à se moquer. Marie, elle, continue cette prière. Marie prend cette prière et la fait sienne. Elle descend avec son fils, devenu l'époux, puisqu'elle est l'épouse. Elle continue cette prière et elle descend avec lui dans l'abîme de la souffrance et de la détresse humaine. Et ce psaume la conduit jusqu'au fond, jusqu'au très fond de l'abîme de la souffrance humaine. La souffrance humaine coupée de Dieu, séparée de Dieu. Il n'y a pas pire souffrance humaine que d'être coupé de Dieu. C'est objectivement, c'est la souffrance de notre monde d'aujourd'hui. Hein. Notre monde aujourd'hui est dur, notre monde est violent, notre monde est... Mais en réalité, c'est parce qu'il souffre. La plus grande souffrance, c'est l'absence de Dieu. L'absence de Dieu qui est conséquence du péché. Et Jésus, loin de condamner le monde qui souffre, loin de condamner le monde violent, Jésus ne condamne pas les grands prêtres. Jésus ne condamne pas même le mauvais larron qui est à côté de lui. Jésus aime les grands prêtres. Il les aime du même amour qu'il m'aime moi. Il les aime du même amour qu'il aime le bon larron. Il a un amour inconditionnel pour les grands prêtres ou pour les scribes, pour ceux qui l'ont condamné. Il a un amour inconditionnel pour Pilate qui l'a fait crucifier. Parce qu'il sait, lui, que cette souffrance est la cause de cette violence, et cette souffrance est la conséquence du péché. Et donc Marie accompagne son fils dans la profondeur de cette souffrance. Jusqu'au terme du psaume, qu'on oublie toujours, la fin du psaume se termine en allégresse, la fin du psaume se termine en espérance. Ils mangeront les pauvres qui ont faim, et ils seront rassasiés. Par la grâce de Dieu, je revivrai, et tous les peuples loueront la face de Dieu, et tous les peuples reconnaîtront celui qui est rené, celui qui est ressuscité, celui qui s'est relevé. C'est comme si Jésus disait à sa mère, « Maman, va au bout de la prière et au bout du bout de la souffrance et de l'abîme, tu découvriras la lumière. Tu découvriras la source de toute espérance. » Je vous lis simplement la fin du psaume parce qu'elle est tellement extraordinaire. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté et le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence, tous les grands prêtres et les scribes, et ceux d'aujourd'hui encore. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre, au peuple qui va naître. Naître de cette rédemption. Maman, va au bout de la prière, au bout de l'abîme de la souffrance et de la mort, tu découvriras la source de toute espérance. J'ai découvert ça mieux en allant à l'Alverne, au mont Alverne, là où saint François a reçu les stigmates. Saint-François a reçu les stigmates au fond de grottes effrayantes. Il avait cette recherche de tout son être de s'unir au Christ dans la passion, de s'unir au Christ dans sa souffrance, par amour pour le monde. Et François demandait au Christ la grâce de ressentir le même amour pour les pécheurs, mais aussi la même souffrance de la passion. Et il a été exaucé au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer, parce qu'il a reçu les stigmates de la passion. Et en quelque manière, il a reçu les stigmates de la passion, identifiés au Christ, un peu comme Marie est conçoit dans son sein, parce qu'elle porte en elle cette grâce, cette force de l'Esprit-Saint. Saint François d'Assise, comment sont venues ces blessures ? Par l'intérieur, pas par l'extérieur. Par cette contemplation intérieure de l'amour de Dieu. Marie accompagne Jésus dans cette offrande, elle féconde cette offrande en quelque manière. Et elle offrira le cadavre de Jésus au Père. Quand elle reçoit Jésus qu'on décrucifie, qu'on détache de la croix, elle reçoit Jésus, et elle offre Jésus à son Père. Ça, c'est la mère qui parlera. Avant de passer à la maternité, je voudrais encore un mot sur la virginité et sur l'épouse. L'épouse, Marie, reçoit l'eau vive qui jaillit du cœur du Christ, comme elle a reçu l'Eucharistie. Marie a-t-elle communié le jeudi saint ou seulement après Pâques? On peut discuter longtemps. Est-ce qu'il y avait seulement les 12 au Cénacle ou est-ce que Marie était présente? Je serais tenté de croire que Marie était présente, mais peu importe. Marie a communié, plus tard en tout cas, au corps de son Fils. Et je voudrais souligner quelque chose qui est tellement important et qui pour nous a une très grande importance. Marie est plus unie comme épouse, Marie est plus unie à son Fils par l'Eucharistie que quand elle portait Jésus dans son sein. Quand j'étais plus jeune, je me suis souvent dit, mais oui, mais Marie, elle a porté Jésus quand même, c'est balèze quand même, c'est beau. J'aimerais bien porter Jésus vivant. Mais tu as plus avec l'Eucharistie. Quand une mère est enceinte, il y a deux cœurs qui battent, il y a deux circuits sanguins, au point que, j'ai découvert ça avec stupeur, au point que le sang de l'enfant est quelquefois incompatible avec le sang de la maman. Il y a deux circuits sanguins. Quand Marie communie au corps et au sang de son Fils, il n'y a plus qu'un seul battement de cœur, c'est le sang de son Fils qui coule dans ses veines. Elle est unie à son Fils pour faire une seule vie. Il y a deux personnes, mais il y a une seule vie. Quand moi je communie au corps du Christ, c'est lui qui est en moi et moi qui suis en lui, et nos vies ne sont plus qu'un, je suis divinisé dans l'Eucharistie. Est-ce que je vis de l'Eucharistie ou est-ce que je reçois l'Eucharistie d'une façon extérieure? Est-ce que je reçois simplement une hostie mais dont la trace s'efface très vite, ou est-ce que je reçois l'Eucharistie du dedans parce que je contemple l'Eucharistie? Est-ce que je suis uni à Jésus Eucharistie par le dedans? Marie est épouse en recevant l'Eucharistie. Saint Paul dira que l'Église, Dieu veut se la présenter à lui comme une épouse sainte, sans tache. Marie, elle est conçue immaculée, elle est l'Immaculée Conception. Moi, je n'ai pas été conçue immaculée. Mais je serai peu à peu immaculéisée, enfin, je ne sais pas comment dire. Je serai peu à peu purifiée, divinisée, jusqu'à être introduite dans le sein du Père au-delà de la mort. Mais c'est le sens de ma vie. Ma vie n'a pas de sens autrement que ça. Ma vie n'a pas de sens autrement. Le sens de ma vie, c'est d'être uni à Dieu pour être en lui, en une seule vie. Et je commence ça sur la terre, par l'Eucharistie, et par la prière, et par beaucoup d'autres choses, mais l'Eucharistie est une des forces les plus importantes. Je suis fait pour devenir moi-même épouse du Christ, à la manière de Marie. Épouse du Christ parce que je serai virginisée dans la rédemption, dans le salut, dans l'œuvre de salut. Je ne vis plus selon la chair, je ne vis plus selon le péché, je vis selon la grâce. En tout cas, je le voudrais. Mais comme saint Paul, je souffre de sentir que je suis encore dans la loi du péché, alors que la loi de la vie m'a déjà sauvé. Il y a cette espèce de bataille en moi qui est menée entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et la haine. Je dois batailler sans cesse pour que l'Esprit Saint puisse réaliser son œuvre en moi, son œuvre de sanctification. Mais mon espérance, c'est que j'arriverai au bout du chemin. J'arriverai à la sanctification au-delà de tout, au-delà de l'offrande, au-delà de l'homme, de la mort. Et toute ma vie sur la terre, toute mon œuvre sur la terre, tout mon désir sur la terre, c'est de vivre au maximum déjà sur la terre de cette sanctification, de cette divinisation, de cette union au Christ dans l'Esprit Saint. Marie est Vierge Marie, épouse Marie, mère. Marie porte Jésus. Le premier moment où elle porte Jésus, elle le porte à Élisabeth, qui porte Jean-Baptiste. Elle porte Jésus, elle est missionnaire, elle est évangélisatrice au sens fort. Elle porte cette parole qui vit en elle pour la donner, pour la transmettre, pour la... Et de fait, Jean-Baptiste exulte dans le sein de sa mère. La première œuvre d'évangélisation de Marie, c'est la visitation. Et d'ailleurs, Élisabeth ne s'y trompe pas. Comment ai-je ce bonheur que vienne à moi la mère de mon Sauveur ? Marie est prévenue par l'Esprit, Élisabeth est prévenue par l'Esprit Saint. Élisabeth découvre le mystère que Marie porte, parce qu'elle est ouverte elle aussi à l'Esprit Saint. Comment ai-je ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Sauveur ? Car vois-tu, quand tu as dit tes paroles de salutation, l'enfant que je porte a tressailli dans mon sein. Marie est mère, elle porte Jésus. Elle présentera l'enfant Dieu aux bergers qui viennent l'adorer. Elle présentera l'enfant Dieu aux mages qui viennent l'adorer. Elle est vraiment la mère qui veille, la mère qui nourrit, la mère qui lange son fils. Inouï, c'est un mystère inouï. Que Dieu se fasse nourrisson, que Dieu se fasse si petit et si pauvre, que Dieu se fasse si faible et si fragile, la vulnérabilité de Dieu qui se présente sous la forme de cet enfant. Et Marie est mère pour garder, pour protéger. Je pourrais longtemps parler de Joseph, mais là je voudrais parler de Marie, mais pour protéger, pour nourrir, pour grandir, pour faire grandir, pour éduquer. Pour protéger. J'ai dit tout à l'heure, j'ai souligné ce lien entre l'Annonciation, le moment de la conception virginale de Jésus en Marie, et la maternité de Marie. La maternité, parce que elle devient mère de Jean au calvaire, elle devient mère de tout homme, mère de toute l'humanité, mais de l'Église en particulier. On pourrait faire ce parallèle entre le mystère de la présentation de Jésus au temple, quand Marie porte Jésus pour le présenter à son Père. Elle présente Dieu à Dieu. Quel mystère ! Marie porte au temple l'enfant Dieu pour l'offrir à Dieu. Elle offre ce que Dieu lui a... Vous savez, il y a une très belle prière comme ça dans la messe qui vient d'une très ancienne prière du roi David. Nous ne t'offrons que ce que nous avons reçu de ta main. Nous ne pouvons t'offrir que ce que tu nous as offert. Marie offre ce qu'elle a reçu du Père. Elle offre au Père ce qu'elle a reçu du Père. Marie, plus tard, au calvaire, offrira le cadavre de Jésus. Parce qu'elle est mère, parce qu'elle peut offrir encore. Jésus ne peut plus rien à ce moment-là. Marie peut achever l'offrande parce qu'elle offre encore le cadavre de Jésus. C'est quelque chose d'offrir le cadavre de celui qu'on aime. On voudrait bien le garder. Marie-Madeleine est tout entière possessive encore avec le cadavre de Jésus. On a pris mon Jésus et je ne sais pas où on l'a mis. Marie offre cette présence, cette ultime présence de son Fils. Elle l'offre et elle se retire dans le silence du Samedi Saint. Et justement, dans le silence du Samedi Saint, elle comprend ce qu'elle n'avait jamais compris jusqu'alors. Jésus est aux affaires de son Père. Quand il avait 12 ans, il avait disparu pendant 3 jours. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme dans quelle angoisse nous avons cherché ton Père et moi. Et comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Est-ce que vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait ce soir-là, ce jour-là. Marie conservait toutes ces choses et les méditait soigneusement dans son cœur. Elle a porté ça toute sa vie. Et puis là, après la mort de Jésus, quand il sera 3 jours au tombeau, Marie, qui garde ces choses absolument présentes, comprend. Jésus est aux affaires de son Père. Il est mort d'amour, Il a annoncé, Marie le retient, et c'est présent à son esprit. Jésus a annoncé à plusieurs reprises sa résurrection après sa mort. Marie attend, douloureuse, infiniment douloureuse. Personne n'a jamais souffert comme Marie a souffert. Infiniment douloureuse, mais paisible dans cette douleur. J'ose dire que Marie est douloureuse, mais elle n'est pas triste. Marie est dans l'espérance. Elle attend la bienheureuse espérance. Quand les femmes sont affolées, quand les femmes sont agitées, qu'elles, à cause du sabbat, elles sont retenues, elles ne peuvent pas aller embaumer et finir d'embaumer le corps de Jésus. Et dès le matin de Pâques, elles vont foncer dès le lever du jour, dès que le sabbat est terminé, pour pouvoir aller achever au tombeau ce qui n'a pas été achevé la veille. Marie, elle, reste, elle demeure dans le silence dont nous avons parlé tout à l'heure. L'incroyable silence de Marie qui l'enveloppe de nouveau dans la contemplation pure de son cœur. Alors Marie, mère, devient mère aussi de l'Église. Et la première manifestation de cette maternité, ce sera au Cénacle, après l'Ascension. Dans les 10 jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte, Marie est avec les apôtres à attendre ce que Jésus a promis, la venue de l'Esprit-Saint. Et Marie prie avec les apôtres, et Marie enseigne aux 12, comme elle avait enseigné à son enfant autrefois les psaumes. Marie enseigne aux 12 la prière à l'Esprit-Saint. Marie enseigne par sa prière, tout simplement. Marie enseigne par l'exemple. Elle enseigne les apôtres qui regardent comment Marie prie et qui s'efforcent de prier comme Marie prie. Résultat, Marie est unie profondément à son fils. Comme vierge, elle est déjà en présence du Verbe de Dieu, qu'elle ne connaît pas encore intellectuellement, mais qu'elle connaît par sa contemplation. Comme épouse, elle adhère, elle consent à la volonté du Père pour épouser la volonté faite chair. Elle est la parfaite épouse, parce qu'elle est la parfaite épouse au sens de saint Paul, mais dans la compréhension du vrai mystère, soumise à son époux. Soumise, c'est-à-dire qu'elle sous-tend la mission. Vous, les époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, comme le Christ a aimé sa mère, comme le Christ a aimé son épouse. Autrement dit, Marie est présente aujourd'hui à l'Église comme elle est présente au Christ. Et puis enfin, Marie est mère, elle exerce à l'égard de l'Église cette maternité qu'elle a exercée à l'égard de Jésus, qu'elle a exercée à l'égard des apôtres. Elle exerce aujourd'hui encore cette maternité pour conduire. C'est l'Esprit-Saint qui conduit, mais encore une fois, Marie est le pur reflet, et c'est en regardant Marie qui elle-même vit la parfaite foi, la parfaite espérance et la parfaite charité, que moi-même j'entre dans ce chemin de sanctification. C'est Marie qui m'enseigne, c'est Marie qui m'apprend, c'est Marie qui m'éduque à la foi, c'est Marie qui m'apprend la vie chrétienne. Elle me conduit, moi, personnellement, mais elle conduit aussi toutes les communautés humaines. Et par exemple, la famille, par exemple aussi la paroisse qui est la première cellule dans l'Église. La toute petite cellule de base, l'Église domestique, comme aurait dit autrefois saint Jean-Paul II, c'est la famille. Mais la paroisse qui regroupe les familles dans un quartier géographique, c'est la cellule fondamentale qui construit un diocèse. Et donc, il est juste et bon de se consacrer à la Vierge Marie en paroisse pour recevoir de Marie le don de l'Esprit-Saint et pour que ce don de l'Esprit-Saint soit fécondé dans la paroisse, pour que la paroisse elle-même puisse donner le Christ au monde comme Marie l'a donné. que la paroisse soit sanctifiée par le don de l'Esprit-Saint, à l'école de Marie et par le don de Marie qui est ce canal de grâce, médiatrice de toute grâce. Et elle n'est pas la tête de l'Église, elle est, comme l'ont dit souvent des saints, elle est le cou. Toute l'énergie, toute l'influx nerveux, toute la vie passe par le cou. Marie est comme le cou dans le corps de l'Église. C'est-à-dire que toutes les grâces viennent du Christ par Marie. Et donc en paroisse, si nous voulons vraiment être fidèles à la volonté de Dieu, si nous voulons vivre de l'Esprit-Saint pour devenir disciples missionnaires comme Marie est modèle du disciple missionnaire, il est juste et bon de se consacrer à la Vierge Marie. Vierge dans sa foi, épouse pour l'espérance. Épouse pour l'espérance, parce que c'est l'espérance qui conduit en avant, la vie est devant, la vie est en avant. Et mère pour la charité, parce que c'est la maternité qui porte le monde, c'est la charité qui porte les hommes qui nous sont confiés. Alors préparons avec joie, préparons avec cœur, préparons avec soin cette consécration, que cette consécration soit pour nous vraiment, pour la paroisse tout entière, un moment clé. Même si nous ne sommes pas encore très nombreux, je ne compte pas, je ne regarde pas le nombre. Nous sommes bien assez nombreux pour vivre ça, comme nous avons vécu, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont vécu aussi avec nous, l'effusion de l'Esprit-Saint au mois de juin, que petit à petit, peu à peu, tout ça prenne corps et racine dans la paroisse, mais peu importe le nombre, encore une fois, que ce petit noyau que nous formons, soit, j'espère que mercredi prochain nous serons un peu plus nombreux, mais que petit à petit tout cette doctrine, ce message, cette réalité se diffuse dans la paroisse, soit vécue en profondeur. Puis j'ai dit beaucoup trop vite des choses qui sont tellement fortes, tellement profondes, qu'il faudrait développer, que nous développerons encore, mais qui peu à peu prennent corps, doivent prendre corps, pour que la paroisse puisse vivre la mission qui lui est confiée, donner Jésus à ceux qui sont paroissiens déjà, et donner Jésus aussi au quartier dont nous sommes responsables et à tous ceux que le Seigneur nous donne de rencontrer. Amen. Vivons intensément ces 8 jours qui viennent et je vous donne rendez-vous mardi soir, exactement dans 8 jours, pour notre veillée de prière. J'espère que plusieurs d'entre vous pourrez rester pour la nuit de prière. Il y en a quelques-unes qui vont rester. En général, c'est des femmes, mais enfin, je pense qu'il y a des hommes qui vont rester aussi, j'en connais. On va faire un petit buffet. Hein. On mettra du thé, des biscuits, on mettra des choses pour se restaurer un peu dans la nuit. Comment ? À partir de la fin de la veillée, à partir de 22h15 à peu près, dès la fin de la veillée, puis jusqu'à 7h, les laudes. Et puis après les laudes, on fera un café croissant brioche pour... Comment ? Ah ben il y a le rosaire la nuit, hein. On fera le rosaire pendant la nuit, puis l'office du milieu de la nuit vers 3h du matin, il y aura un programme, on chantera, il y a tout un programme pour la nuit, on ne va pas vous laisser en silence toute la nuit sans rien. Oui. Et faites de la pub autour de vous pour qu'il y ait quand même quelques personnes. Si vous pouvez rester que 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, restez 2 heures au milieu de la nuit, mais venez tous. L'Église restera ouverte, et puis moi j'y serai. Même si on s'assoupit un peu. J'avais, dans une paroisse précédente, j'avais une femme qui était mère d'un évêque d'ailleurs, mais une femme qui avait 87 ans, à 87 ans, je la revois encore, elle passait toute la nuit, mais toute la nuit, elle était à genoux une demi-heure, assise une demi-heure, à genoux une demi-heure, assise une demi-heure, à genoux une demi-heure, assise une demi-heure. Toute la nuit, du début à la fin de la nuit jusqu'au laude. Elle n'allait même pas prendre une tasse de thé ou un machin, elle était toute la nuit. Chaque fois qu'on faisait une nuit d'adoration, elle était... Oh là là, mon Dieu, ça...
Oui, c'est beau.
Vous n'avez jamais été invité. Alors je vous invite. Eh ben c'est ça. Ouais. Non, mais là, je voudrais que ce soit un événement qui marque un peu. Et donc le 8 au soir, la messe, hein, je redis pour ceux qui n'étaient pas là hier éventuellement, le 8 au soir, la messe à 19h, puis après la messe, on fera une procession de la Sainte Vierge, et puis la consécration à la Sainte Vierge. Puis après, un dîner festif. Alors là, le dîner, il faut vous apporter chacun quelque chose. Mais je ne veux pas des chips et des cacahuètes. Hein. Il faut un vrai dîner qui soit beau. On fait un beau buffet, on décorera tout ça, ce sera beau et chaleureux. Il faut que ce soit un grand dîner, il faut que ça marque la paroisse. Ça va comme ça ?
Merci.
Allez, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs.
Seigneur Jésus, qui avait dit les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, et qui, durant les jours de votre ministère, n'avait dormi souvent que sous des abris de toile ou de feuillage, demeurez avec nous, car il se fait tard et la nuit vient. Visitez cette maison, Seigneur, écartez-en les embûches de l'ennemi. Que vos saints anges y montent la garde, afin que nous puissions reposer en paix sous les étoiles qui nous parlent de votre gloire, et que votre bénédiction demeure sur nous toujours, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et y demeure à jamais. Amen. Merci beaucoup.
Merci.
Et belle semaine d'avant.